Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. 3 heures de direct avec vous au 32-16 ou sur l'application RMC. Rubrique direct studio, on sera pendant ces 3 heures avec Rémi Barré. Ça va Rémi?
Bonjour Estelle, bonjour à tous, ça va très bien.
Perico Légas, il vient tout juste d'arriver. Ça va, Perico?
Je me suis préparé tout le week-end à l'émission.
Oh.
Ah. Je me concentrais sur vous et voilà, je suis opérationnel.
Eh bien écoutez, tant mieux Perico. Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante. Ça va Emmanuel?
Ça va très très bien, bonjour à toutes.
Et puis on est avec Jérôme Lavrieux, propriétaire de Gîtes.
Notamment.
Vous faites complet?
Pour l'instant, oui.
Bon, bah écoutez, très bien, très bien.
Il fait beau dans le sud-ouest, on vient
d'entendre. Oui, bah, il fait même trop chaud.
Enfin, non, ça va.
Chez vous, c'est un microclimat.
Oui,
d'accord.
Parfait.
Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, seriez-vous prêt à travailler 36 heures et non pas 35, mais sur 4 jours? C'est la proposition du Républicain Sébastien Michel. On attend vos réactions au 32-16. À midi et demi, Cadmerad qui veut baisser le prix des places de ciné pour relancer la fréquentation des salles. Bonne ou mauvaise idée? À 13h, la polémique après l'arrivée d'un fast-food KFC en plein centre-ville de Limoges. Est-ce qu'il faut sanctuariser nos centres-villes? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera du partage des abonnements. C'est économique, mais c'est très risqué. Stéphane nous racontera tout ça. À 14h, le boom du tout électrique sur nos routes, alors même que les prix de l'électricité flambent. Est-ce qu'on a tout faux? Là encore, on attend vos réactions au 32-16. Et puis, on continue à vous faire gagner des cadeaux Apple cette semaine.
Exactement, ça a marché très fort la semaine dernière. Donc, tout au long de la semaine, dans toutes les émissions d'RMC, nous continuons le jeu du coffre avec des produits de la gamme Apple à remporter vers 14h40. L'un d'entre vous sera avec nous à l'antenne et gagnera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à partir de ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez votre cadeau, soit vous êtes prêt à y renoncer et alors vous tentez d'ouvrir le coffre RMC à l'intérieur des AirPods ou l'iPhone 14 Pro Max. C'est le top du top de l'iPhone. Pour jouer, vous vous inscrivez tout de suite par SMS en envoyant coffre au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Il est 17h, vous êtes sur RMC et on va démarrer Estelle Midi avec l'idée du jour. C'est celle du maire d'Écully, Sébastien Michel. Le Républicain souhaite remplacer les 35 heures par 36 heures de travail. Mais attention, non pas sur 5 jours, mais sur 4 jours. Il expérimente déjà ce concept à la mairie d'Écully. Et c'est vrai, Rémi, que c'est déjà une tendance lourde partout en Europe.
Oui, avec souvent la même idée, rééquilibrer la vie des salariés entre vie professionnelle et vie personnelle et aussi gagner en productivité. Parmi les derniers exemples en date, celui du Royaume-Uni. Depuis le 1er juin, 3300 salariés britanniques ne travaillent plus que 4 jours par semaine pour le même salaire. Ce test à grande échelle doit durer 6 mois. Il concerne 70 entreprises. Mais si les salariés disposent d'un jour de week-end supplémentaire, leurs objectifs de production restent les mêmes et les journées sont donc plus chargées ou plus longues. Bon, faut savoir qu'en Grande-Bretagne, en moyenne, les salariés travaillent 37h30. Ailleurs en Europe, des projets similaires sont attendus en Espagne, en Écosse en 2023 et peut-être au Pays de Galles. En Belgique, après une proposition de loi déposée par le gouvernement, il sera bientôt possible de travailler 9h30 par jour pendant 4 jours par semaine plutôt que 8 heures sur 5 jours. Mais l'exemple le plus couramment cité, ça reste encore aujourd'hui celui de l'Islande qui a testé la semaine de 4 jours dès 2015, une réussite, en tout cas c'est ce que disent les syndicats sur place, à tel point que depuis, la majorité des entreprises en Islande sont restées aux 4 jours par semaine.
Alors, seriez-vous prêt à travailler 36 heures sur 4 jours? C'est la question qu'on vous pose dans Estelle Midi et que je vous pose, Emmanuel Dancourt.
Ah oui, complètement.
D'accord.
Ah bon, de toute façon, nous les mères de famille, on fait déjà 3 journées en une, alors... une demi-heure de plus ou de moins. Je pense que ça change. Non, mais je trouve le système, en fait, il existe déjà. En fait, ce que je comprends pas, c'est que ce système existe déjà. Il y a plusieurs entreprises. Alors, ça reste assez confidentiel en France.
C'est marginal.
Mais il y a plusieurs entreprises qui l'appliquent, qui l'ont testé. Donc, on se retrouve avec des mères de famille, des pères de famille, enfin, des gens qui peuvent travailler 4 jours. Mais ce que je comprends pas dans la proposition du maire d'Écully, c'est pourquoi il rajoute 1 heure. Parce que nous, on est aux 35 heures en France.
Parce que c'est un multiple de 4. Si tu fais 35 heures sur 9 jours, sur 4 jours, c'est compliqué. Tandis que
ça fait 8h45.
D'accord, alors, c'est le problème. Tu prends un chiffre rond, on fait 9.
D'accord, mais moi, c'est
9h36.
Cette 36e heure me posait un peu question.
Mais non, c'est pour rajouter un petit peu. T'as compris la
semaine. Travailler 1 heure de plus, quel calvaire.
Mais moi, je trouve que de pouvoir se couper la semaine, beaucoup de mamans, en tout cas, prennent les mercredis. Il y en a qui vont prendre les vendredis ou les lundis et se faire un vrai week-end. Je trouve l'idée intéressante. Et moi, en tant qu'indépendante, c'est déjà quelque chose que je pratique, mais parce que je suis indépendante que je peux me le permettre.
Est-ce qu'il faut révolutionner le monde du travail, Jérôme Lavrieux, c'est-à-dire même stopper les 35 heures? On voit que ça ne plaît à personne. Donc
les 35 heures, ça fait longtemps qu'elles sont stoppées. Les 35 heures maintenant, dans le monde du travail, quand on est salarié, les indépendants, il n'y a pas droit. La 35e heure, c'est l'heure à partir de laquelle on déclenche les heures sup. Qu'elles soient défiscalisées ou pas, d'ailleurs, ça dépend des gouvernements. Mais il y a quasiment plus personne qui travaille à 35 heures pile.
En moyenne, c'est 36,9 heures par semaine.
C'est comme le débat qu'on aura sur le départ de la retraite. En fait, c'est un repère. Et 35 heures, même plus personne ne dit qu'il faut supprimer les 35 heures, parce que dans les faits, elles n'existent plus, les 35 heures. C'est l'heure à partir desquelles vous allez être payé plus en payant moins de cotisations. Donc voilà. Après, pourquoi 36 au lieu de 35? Quand vous êtes une collectivité, ça vous permet d'améliorer l'amplitude horaire d'ouverture de vos services.
D'accord.
Et de les adapter. D'accord. Avec les citoyens qui n'ont pas forcément la possibilité de venir pendant les heures de bureau. Ceci étant, ça veut pas dire que la mairie ne sera ouverte que 4 jours.
Oui. Ah ben
ça
non.
Ça veut dire, il va falloir, il y en a qui vont, parce qu'on dit, tout le monde aura un jour de week-end en plus. Non. Parce que il y en a qui vont travailler les 4 premiers jours, puis après il reste plus que 3 jours, et donc il va falloir que ça s'adapte. Moi, je suis ni pour ni contre. Je pense que juste ça doit se faire sur la base d'un accord.
En concertation.
Entre les salariés.
Mais encore faut-il que les entreprises le proposent.
Ou les entreprises. Et je pense qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant et que ça essaye de correspondre le mieux possible. On peut pas faire du sur-mesure tout le temps, parce que sinon, il faut être indépendant si on veut du sur-mesure. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et quant à améliorer la productivité, je suis pas sûr, parce que quand on regarde, les Français sont ceux qui travaillent sans doute le moins en nombre d'heures, mais qui ont la plus grosse productivité quand ils sont au travail, notamment dans l'industrie, puisque tout le monde ne travaille pas dans les services. Il y a encore des gens qui travaillent dans l'industrie.
Ça vous paraît une bonne idée, vous, Péricolégas?
Le schéma du maire d'Écully est éculé. Alors, je ne sais pas quelle moufle appliquer.
Lui, il dit, ça fait 15 ans qu'on a proposé aux Républicains, et donc j'arrive et je propose ça.
J'ai tout estime pour les Républicains auxquels a appartenu notre ami.
Non, je n'ai jamais appartenu aux Républicains.
Oui, c'est vrai, enfin bon, c'est cette sensibilité.
Je les ai quittés tant que c'était l'UMP.
Mais on les attend pas, c'est vrai, on les attend pas là-dessus, je ne sais pas quelle moufle appliquer.
Justement, il a voulu s'emparer du débat.
Est-ce qu'on peut sortir, une fois pour toutes, sans ça va continuer à pédaler dans la semoule, est-ce qu'on peut sortir du format, du schéma rigide, définitif, dans lequel on enferme l'univers du travail? C'est en fonction de l'activité, en fonction de la branche. Mais pour la retraite, pareil.
Ça n'avancera jamais.
Ça n'avance plus parce qu'on s'en tient toujours à ce schéma-là. La retraite, c'est de 58 à 68. Voilà. Il y a des gens qui partent à 58 ans parce qu'ils méritent de partir à 58 ans et d'autres qui peuvent tenir à 68 parce qu'ils seront encore plus performants.
Donc le travail, c'est de 30 à 40.
Exactement.
D'accord.
Il y a des gens qui ont besoin de travailler 42 heures.
Mais sauf qu'il y a des gens qui aimeraient faire 4 jours et qui ne peuvent pas, en fait.
Alors ensuite,
Si c'est la loi, ils pourront.
Alors ensuite, il y avait un syndicaliste fameux qui s'appelait André Bergeron, Force ouvrière. Oui. Voilà, il était pour la politique contractuelle. Eh ben, on fait des contrats, branche par branche, filière par filière, entreprise par entreprise. C'est pas plus sorcier qu'est-ce qui existe
aujourd'hui.
Mais
l'État doit légiférer. Et l'État doit dire, ok.
L'État il fait un cadre. Voilà.
Ah bah voilà.
Entre 34 et 38. Voilà. Entre 34 et 38 heures. Moi, je connais des entreprises à 32 heures. Vachement efficace. Et j'en connais qui sont encore en 40 heures.
D'accord, alors pourquoi la grande majorité des gens continuent à travailler 5 jours par semaine?
Idéologiquement, le syndicalisme de gauche, qui ne représente plus rien, a besoin d'avoir des schémas de revendications sociales.
On a qu'à les changer.
Le T35 heures fut un grand fléau. pour l'économie française. Ça nous a appauvris, ça nous a tués. D'ailleurs, on en est sorti. Les gouvernements de droite n'ont jamais eu le courage de le... C'était une mesure très généreuse. Si on pouvait faire 28, on ferait 28. Si on pouvait rester à la maison et payer gratuitement. Hein, 35 heures, ce fut un fléau économique au moment où tout le monde se remettait au travail. Ça me fait penser à 1900, au moment où, où l'Allemagne est réarmée, la France désarmée. Bon. Voilà. Donc là, on a besoin. Sauf que personne ne le fait. Et on va continuer à avoir des débats pendant des siècles. 35, 36, 60, 62 ans.
Non, c'est la semaine de 4 jours, la
semaine,
en fait.
D'accord. Bah, oui. Donc c'est un projet idiot.
La semaine de 4 jours est un projet
idiot. Mais par contre, il y a des filières où c'est génial. Mais arrêtons de faire une définition globale, définitive.
Mais 4 jours, ça veut dire que pendant 3 jours, déjà,
Vous faites quoi pendant le 5e? Si vous n'avez pas les moyens, vous savez ce qu'il faut? C'est rétribuer les gens.
Mais je suis d'accord, mais n'empêche que tu peux, t'as pas les moyens, mais tu peux avoir du temps, tu peux avoir plus de temps avec tes enfants, tu peux avoir plus de temps
le
pour des activités annexes.
Non, le speaker, il a
pas
un centime.
Tu peux avoir plus de temps pour du bénévolat. Je te parle pas d'argent, là.
Ah, bah si. Les 35 heures, la folie, c'est qu'on avait dû empêcher les rétributions supplémentaires par l'heure supplémentaire. Et qu'il y avait 35 heures pour des gens qui n'avaient.
Les 35 heures, on peut user notre salive autant qu'on veut, ça n'existe plus.
Mais on est d'accord, c'est pour ça que je te dis.
Pour ça, Jérôme, je te dis.
Oui, mais la semaine de 5 jours, elle existe.
Oui, mais là, c'est un terme d'organisation du temps de travail. C'est pas un terme de salaire et de rémunération. Seront payés exactement la même chose. C'est simplement, faisons-le pour ceux à qui ça convient.
Oui.
Mais ne refaisons pas les mêmes conneries en disant, on va faire, ce pays veut toujours, dans une espèce de fantasme égalitaire, passer tout le monde à la toise.
Exactement.
En fait, il faut chacun le faire.
Et donc, eh ben, ils l'auront.
Et mais il n'y a
si
pas besoin.
L'applique.
Pas
non, si le gouvernement donne la marge.
Merci.
Non.
Oui.
Il n'y a pas besoin de loi.
Oui, je suis d'accord.
Il n'y a pas besoin de loi.
Tu pousses les entreprises à le faire.
La loi, elle dit, vous ne pouvez pas faire travailler les gens plus de 42 ou 44 heures.
Voilà.
Et au-delà de 35 heures, c'est des heures supplémentaires. Et d'ailleurs, les gens recherchent de plus en plus à faire des heures supplémentaires, puisque à chaque fois, on défiscalise. Et
ça, c'est un coup de génie de Sarkozy. Et Hollande l'a tué par idéologie.
Et Emmanuel Macron le remet en place. Mais ça, c'est de la rémunération. Il ne faut pas confondre la rémunération avec l'organisation du temps de travail.
Voilà.
La première chose, c'est est-ce que ça convient, c'est le mieux, le plus efficace pour l'entreprise ou l'administration, en l'occurrence.
Ah bah oui.
C'est une administration. Et est-ce que ça, c'est compatible avec les gens qui vont exercer cela? Et donc, ça peut se faire que dans le cadre de négociations, même pas à l'intérieur de branches, à l'intérieur des entreprises.
Et du service public, et du respect du service public.
Il y a des millions de personnes qui ne pourront pas le faire dans un hôpital.
Mais évidemment.
Vous travaillez la nuit,
secteurs,
c'est pas la même chose que quand vous travaillez le jour dans une BAC, une brigade anticriminalité dans un commissariat, ils travaillent de nuit. Quand vous êtes posté en usine et vous faites les 3-8, et ben c'est pas la même chose.
Ils s'occupent de l'école Bocuse plutôt à Écully que de savoir si on fait 35 ou 36 ans.
Il n'y a pas que ça à Écully quand même. Alors, on est avec Thomas qui nous appelle de Charente et qui est chef d'entreprise dans le bâtiment. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour. Thomas, est-ce que vous êtes favorable à ces 36 heures par jour, mais durant... non, pas par jour. Non. 36 heures par semaine, mais 4 jours de travail.
Ouais, bah bien sûr. Nous, c'est ce qu'on a mis en place déjà depuis un petit moment.
Ah, voilà.
Enfin, depuis que j'ai créé l'entreprise, moi, c'est ce qu'on a mis en place.
D'accord.
Bon, après, nous, dans le bâtiment, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que certains d'autres corps de métier. Mais nous, pour les salariés, c'est très avantageux du fait que ils peuvent prendre tous leurs rendez-vous médicaux ou administratifs le vendredi déjà.
Mmh.
Parce que tout est fermé le week-end en général. Et le soir, si on débauche à 17h30, tout est fermé aussi. Donc, il faut qu'ils prennent des jours de congé, sinon.
Ou des RTT.
Ou des RTT, ouais, bien sûr. Mais si on fait que 35 heures, il n'y a pas de RTT.
Oui, oui Thomas, mais pour avoir du temps pour soi, il faut qu'il y ait des gens qui aient du temps pour vous. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des gens qui travaillent quand vous avez fini vos 4 jours de travail.
Il y en a qui bosseront 3 jours.
Mais on est bien d'accord. Donc, chacun s'adapte. Et Thomas, je vous remercie d'aller dans le sens de ce que j'ai dit. La loi ne vous a pas interdit de mettre en place le système de 4 jours depuis le temps que vous avez eu envie de le faire.
Et est-ce que Thomas, c'est un critère à l'embauche? C'est-à-dire, est-ce que ça séduit vos candidats, par exemple, quand vous faites des entretiens?
Il faudrait déjà avoir des candidats.
Oui. Oui, mais justement, je me disais les 4 jours, ça peut marcher, quoi.
Mais ceux que j'ai actuellement là, ça a été déterminant pour eux, que ce soit pour leur vie de famille ou pour, comme je vous disais, pour les rendez-vous. Et même j'en ai un qui est en train de faire des travaux, qui fait des travaux en même temps dans sa maison, et ça lui laisse 3 jours de travaux. Et donc c'est forcément agréable, c'est appréciable.
Ouais, plus de temps pour soi, et puis c'est aussi des économies de carburant, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de la route pour aller au boulot, et ça économise quand même du carburant sur une journée. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Alors Thomas, il est pour cette semaine de 4 jours, mais c'est pas du tout le cas de Franck qui est restaurateur au Muy dans le Var. Bonjour Franck.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors vous n'êtes pas pour, hein, Franck?
Ah non.
Alors restaurateur et hôtelier.
D'accord.
Voilà. Donc effectivement, moi je me retrouve dans un cas où déjà les 35 heures pour les restaurateurs, ben ça a été son conséquence un jour de fermeture, parce que vous n'avez pas embauché des gens juste pour une journée. Et effectivement, on trouve pas déjà. Donc comment voulez-vous qu'ensuite, pour les 3 jours qui restent, je puisse embaucher quelqu'un? Et en plus, de surcroît, si c'est que pour 3 jours, ça sera CDD, c'est précaire, c'est, vous voyez, on trouve pas, et en plus on nous complique encore plus les choses, vous voyez.
Oui, mais en quoi ça vous gêne? Parce que là vous ne trouvez pas, mais en fait, vous allez avoir quelqu'un sur 4 jours.
Faites mon planning, vous allez voir. Moi, le député qui veut mettre ça en place, moi, je lui invite à venir faire mon planning. Je vous prends une femme de chambre à temps complet, donc ça lui fait 9 heures de travail. Je fais quoi, moi, avec une femme de chambre pendant 9 heures?
C'est ça.
Mais Franck, déjà, c'est pas un député qui veut mettre ça en place, c'est un maire qui veut le mettre en place dans sa mairie.
Qui l'a mis en place dans sa mairie.
Et personne ne va vous obliger à le faire.
Voilà, c'est ça.
Personne ne va vous obliger à le faire. Vous avez juste la possibilité, si ça vous concerne, de le mettre en place, mais personne ne va vous obliger de le faire.
Mais ça pourrait le devenir.
Non. La loi va pas obliger à le faire.
Effectivement, il y a des branches, et vous l'avez dit tout à l'heure, Jérôme Lavrieux, les indépendants, ils peuvent pas, et les restaurateurs, Franck vient de nous l'expliquer très clairement, c'est compliqué aussi, c'est pour ça qu'il faudra négocier certainement secteur par secteur. Merci Franck d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Jean-Claude Delgen. Il est président fondateur du cabinet Technologia spécialisé dans l'étude de la vie en entreprise. Bonjour Jean-Claude Delgen.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors on s'écharpe sur le plateau autour de cette semaine de 4 jours avec 36 heures de travail hebdomadaire. Est-ce que vous sentez que c'est une demande aujourd'hui dans les entreprises, en tout cas de la part des salariés?
Disons que ce qu'il faut déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, qu'il faut peut-être reprendre un peu. La première chose, c'est que cette mesure, elle ne concernerait déjà pas les cadres, puisque un cadre sur deux aujourd'hui est en forfait jour, c'est-à-dire qu'on ne compte pas ses horaires.
Et ça m'arrange pas.
À peu près 1,8 million de personnes. Ça ne concerne pas non plus tous les non-salariés qui sont aujourd'hui en moyenne à 48 heures de travail par semaine. Ça pourrait donc concerner éventuellement, si la loi était en fait promulguée, si on est loin du, je dirais,
on n'y est pas encore.
Même proposé.
Même si elle était déjà proposée, si elle était discutée, ça pourrait concerner les salariés du public et du privé. En sachant que aujourd'hui, ça a été dit, le temps de travail réel, je ne parle pas de la durée légale du travail ou même de la durée conventionnelle, le temps de travail réel des salariés est plutôt de 37 heures que de 35. Donc, la mesure pourrait avoir un sens si on cherchait à limiter la rémunération des heures supplémentaires, de la première heure ou de la deuxième heure supplémentaire.
D'accord.
Mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit visé. La mesure a un intérêt en termes, effectivement, c'était dit, pour les familles, pour là où il y a des enfants, de qualité de vie, de bien-être au travail. Ceci dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la pénibilité. Ça a été dit aussi, il y a à peu près 25% des actifs qui sont confrontés aujourd'hui en France à un travail pénible. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans des abattoirs. J'ai travaillé sur cette question-là dans des abattoirs où, quand il y a, par exemple, fallu mettre en place la question des 35 heures, certains ont proposé de mettre 35 heures en 4 jours. Eh bien, c'était intenable. Pourquoi? Parce que les heures marchent. Ça a été dit tout de suite pour la personne des femmes de ménage, mais bon, les heures marginales de travail sont extrêmement difficiles, les gens sont épuisés, et donc vous avez des effets et des conséquences ensuite qui sont difficiles à supporter avec des arrêts de travail ou des arrêts maladie, parce que les gens sont épuisés. Donc, il faut bien réfléchir.
Mais est-ce qu'il ne faut pas laisser le choix? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont épuisés, mais peut-être que d'autres diront, moi je me sens, je préfère travailler 9 heures par jour pendant 4 jours et avoir 3 jours de congé.
Dans cette affaire dont je vous parle, l'abattoir en question, les syndicats étaient pour, le patron était pour, parce qu'il n'avait pas non plus vocation à réduire sa production, tout le monde était pour. Mais au final, les corps Les corps physiques ont dit non, parce que d'accord, la pénibilité, elle s'accumule. Ouais. Donc, vous avez des dynamiques qui peuvent être effectivement positives avec des accords collectifs, etc. Bon. Mais avec, je dirais, à terme, des conséquences. Moi, je travaille beaucoup dans les hôpitaux avec des cycles qui sont parfois jusqu'à 12 heures. Nice. Et effectivement, les gens sont contents au début parce qu'ils sont, ils considèrent qu'ils ont du temps de libre à côté. Mais au final, les organismes en prennent un coup. Donc, il faut aussi tenir en compte la question de la, des rythmes biologiques de l'individu. On peut pas simplement poser des règles. Alors, c'est vrai que certains métiers peuvent s'y accorder. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de loi pour le faire.
Mais souvent, c'est vrai. Les métiers où ils sont déjà en télétravail, en fait. Donc, à la limite, je ne dis pas qu'ils se reposent en télétravail, mais enfin, c'est déjà plus confort, quoi.
Voilà, la question, c'est le travail.
C'est pas,
suivi.
C'est pas le marteau-piqueur.
La question, c'est le travail. Les wagonnets, quoi. Si vous avez un travail qui est trop suivi, ça a des conséquences sur le plan de la santé. Vous voyez, donc, aujourd'hui, c'est une proposition intéressante parce qu'elle elle règle la question du débat. Oui. Par ailleurs, pour les entreprises, je terminerai là-dessus, pour les entreprises, ça serait une sacrée perte de productivité. Pourquoi ?
Il y a des entreprises qui l'ont fait et une entreprise notamment à Lyon d'informatique et la personne dit qu'elle voulait embaucher en se disant, bah tiens, je vais passer aux 4 jours au lieu de 5, je vais embaucher. Mais finalement, comme il n'y avait pas de perte de productivité, il n'a pas embauché.
Il faut faire attention au raisonnement par induction, c'est-à-dire en prenant un exemple et en le généralisant. Si on prend aujourd'hui le réel, c'est-à-dire ce que font les salariés dans le réel, et je dirais le décompte en termes de rémunération, d'accord, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'heures de travail, mais je parle de milliers d'heures de travail, ne sont pas rémunérées,
oui,
parce qu'elles ne sont pas décomptées. Et donc, si effectivement vous commencez à mettre en place un système où vous avez 4 jours par semaine, c'est évident qu'à un moment donné, vous avez des trappes à productivité. Parce qu'encore une fois, vous pourrez effectivement recaler le système sur le travail réel des gens.
D'accord.
Et les gens seront effectivement, de ce point de vue-là, satisfaits. Ceci dit, les entreprises vont perdre en productivité. Et donc, il faut faire attention.
Merci en tout cas Jean-Claude Delgène, vous avez plein de messages Rémi sur ce sujet qui est très clivant.
Ah oui, oui, ça réagit beaucoup sur Direct Studio, l'application d'RMC. Il y a Seb par exemple qui nous dit bonjour, laissez les gens travailler, moi je travaille 5 jours 50 heures par semaine minimum, bientôt les gens ils vont vouloir travailler 3 jours par semaine mais on va où? Mais il y a aussi des messages qui vont dans l'autre sens, qui sont pour cette mesure. Nico nous dit économie de carburant, écologie, économie de cantine et de périscolaire. Voilà la rétribution quand on travaille que 4 jours sur 5. Et Élise nous dit, je suis tout à fait d'accord pour un système de 4 jours avec 36 heures de travail. Cela permettrait d'avoir plus de temps libre pour notre vie privée, moins de frais de garde de nounou, dit-elle aussi, et moins de frais de carburant.
Et économie
ça, c'est
de
une
temps.
Bonne question de référendum.
Économie de temps aussi. Économie de temps, parce que tu disais économie de carburant pour les transports, mais c'est aussi du temps de transport que tu n'utilises pas.
La productivité est le point fort de l'économie française. Aujourd'hui, c'est ce qui nous sauve. Et encore, elle est en train de... Mais elle reste une réalité. Là, si en plus on s'attaque à la productivité, parce qu'il y a des
gens... Mais on ne s'y attaque pas, et ce sont les gens qui sont productifs.
9h, à la 9e heure, ou à la... Voilà, on peut... Voilà. Et là, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de porter atteinte à la productivité de l'économie française.
Non, mais
peut-être un jour.
Non, mais en fait,
tout le
monde s'excite, et en fait... On doit être dans une société de liberté où on permet à chacun de se mettre d'accord dans son entreprise avec son patron pour voir ce qui est le plus intéressant pour.
L'État
donne déjà le go puisque c'est possible de le faire. On a eu un chef d'entreprise qui l'a fait sans qu'il y ait besoin.
D'accord, mais en fait, si l'État disait voilà, on vous encourage, c'est possible de. Je pense
l'État,
que ça
l'État
chose.
Encourage à travailler plus que 35 heures puisqu'au-delà de la 35e heure,
on redéfiscalise.
Après les conneries de Hollande, on défiscalise. Et surtout, on n'impose pas sur le revenu.
Bon, on va voir, en tout cas, si les internautes qui nous suivent sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi, sont favorables ou pas à cette mesure du maire d'Écully. 36 heures de travail sur 4 jours. Bonne ou mauvaise idée, Rémi?
C'est une bonne idée pour 71% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Et ben voilà, très large majorité.
C'est des gens qui ne savent pas. C'est des gens qui n'ont pas compris. C'est pas
grave. Moi, j'ai compris, je suis pour.
Je suis sûr que tu n'as pas tout compris.
Ah ben si, j'ai tout compris.
Prends-nous compte des imbéciles.
Tu n'as
pas l'air.
Mais si, et même à 40 heures, je suis pour. T'imagines? Allez, dans un instant, on parlera de la proposition de Cadmerade. L'acteur veut baisser le prix des places de cinéma afin de relancer la fréquentation des salles. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 32, vous êtes sur RMC, vous êtes dans Estelle Midi et j'espère que vous y êtes bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Et on va s'intéresser tout de suite à la proposition du jour, c'est celle de Cadmerade. L'acteur souhaiterait que le prix des places de cinéma baisse afin de redynamiser la fréquentation des salles. En 3 ans, les cinémas ont perdu 30% de leurs clients. Alors Rémi, les places sont-elles vraiment trop chères en France?
À première vue, oui. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter les sites de réservation des principales chaînes de multiplex, chez Pathé Gaumont ou GC par exemple. Le tarif plein atteint bien souvent les 14 voire 15 euros la place. Avec les suppléments 3D, IMAX, Dolby ou 4DX, les prix peuvent même parfois dépasser les 20 euros. Mais à y regarder de plus près, c'est loin d'être la moyenne de ce que coûte réellement aux spectateurs une place de cinéma. Selon le dernier rapport annuel du Centre National du Cinéma, le CNC, 95,5 millions d'entrées ont été vendues en 2021 pour des recettes guichets de un peu plus de 672 millions d'euros. Ce qui donne une moyenne très précise de 7,04 euros par ticket. Dans le détail, plus de 6 entrées sur 10 en France vendues coûtent moins de 7 euros parce que la majorité des places sont à prix réduit, tarif enfant, étudiant, séance à prix cassé, en heure creuse, carte 5 films, événements comme le printemps du cinéma, comité d'entreprise ou encore abonnement illimité. Voilà. Enfin, si les tarifs des cinémas ne cessent d'augmenter depuis 30 ans, cette augmentation est bien inférieure à l'inflation. Là encore, le CNC a calculé depuis 2012, la hausse du prix de la séance est de 4,8%, alors que l'inflation depuis 2012 a été de 10%.
Oui, enfin, si tu vas au ciné à 4 avec des places à 15 euros, si t'as pas de réduction, t'en es quand même.
Non, mais c'est sûr.
T'en es à 60 euros.
Tu dois faire ton plein dans la salle. Pour que t'achètes une glace
pour tout le monde, t'en es à 80. Donc,
oui, mais
80 euros pour une heure et demie, c'est énorme.
Sauf que la réalité, elle est quand même une place de cinéma en moyenne à 7 euros.
Bonne ou mauvaise idée, cette réduction du tarif des places de cinéma,
Perico? On n'a pas les moyens d'aller au cinéma, on regarde une bande dessinée à la maison, c'est tout.
Oh là là, mais Perico,
c'est pas vrai. Je veux dire, non. Non, quelque part, je suis sérieux.
Ah bon?
Les gens qui peuvent se la payer, se la payent. Vous dites qu'à 4,15,
d'accord. Bah manifestement, il y a de moins en moins de riches en France parce qu'il y a moins en moins de gens au cinéma.
Bon, alors,
les très riches ont
les salles. Cadmerade est gentil, on compense comment? Alors, on va les baisser, hein, les 14,15, on va descendre à 10,12. Mmh. Ouais. Comment on finance ensuite? Ouais. C'est déjà une économie, une industrie.
Mais il y a trop de films.
Je vais continuer à dire des conneries. On supprime Internet, on supprime tous les soirs la télévision. Mais voilà. Et vous savez, vous souvenez, samedi soir, il y avait pas de films à la télévision depuis très longtemps. Vous avez connu ça parce qu'il fallait inciter les gens à aller au cinéma. Et ben,
Moi, je suis plus jeune que vous, j'ai connu que Drucker.
Non. Il y avait des grands films samedi soir dont les gens restaient à la télévision, on n'allait plus au cinéma. Et ben, en étant ça, jusqu'à la télévision, avec les écrans. Le mal du cinéma, il vient pas de là, Estelle. Il vient de la diversité de l'image et de tous les accès aujourd'hui avec
surtout qu'il y a de moins en moins de bons films.
C'est un autre problème.
Il vient,
mais je veux bien aller dans ce sens aussi.
Il vient des navets. La preuve, Top Gun, c'est le même prix qu'un navet. Ben, les gens sont allés voir Top Gun et pas le navet
Pinocchio.
À côté.
Et c'était très bien.
Je l'aime beaucoup.
Pinocchio.
Excellent artiste. Mais sur le prix d'un billet, il propose qu'on diminue quoi?
Oui.
Si c'est pour sauver le cinéma, il peut pas proposer qu'on diminue le prix qui revient à l'exploitant de la salle.
Voilà.
Sinon, il va fermer.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui reste? Le prix qui revient au CNC pour financer le cinéma. Et donc, sa rémunération.
C'est irréductible.
Est-ce que c'est ça qu'il veut baisser? Je suis pas sûr.
C'est irréductible.
Et si c'est pour que ce soit à nouveau le contribuable qui compense, ça veut dire qu'on va faire payer encore un peu plus. Parce que le prix d'un billet, c'est comme quand vous allez à la pompe pour votre bagnole. Vous pensez que vous achetez un litre d'essence, vous achetez des taxes.
Il y a très peu pour le film.
Et là, vous allez... il y a très peu pour l'exploitant.
Et pour l'exploitant, je vais bien sûr.
Il y a beaucoup pour le film. Il y a beaucoup pour des films qui ne seront jamais vus.
Exact.
Et qui ne seront diffusés qu'une seule journée. Ils ne sortiront en salle qu'une seule journée. Parce que c'est nécessaire pour avoir les financements publics. Il faudra attendre la cinglinglin que ça puisse passer en deuxième partie de soirée sur une chaîne, parce que on produit plein de films
de
mauvais ou qui sont pas faits pour être vus au cinéma, mais qui sont faits pour être vus à la télé.
Les films français chorales, tu vois les 5 premières minutes, tu connais déjà les 5 dernières.
Donc les gens sont pas fous. Ils savent que ça coûte de l'argent, ça a toujours coûté de l'argent d'aller au cinéma, ça a jamais été gratuit, mais ben ils y vont pour voir un truc bien, ils y vont pas pour voir le dernier navet dont ils sauront qu'il sera diffusé.
Après, la différence, c'est qu'aujourd'hui, finalement, une place de ciné, c'est quasiment le prix d'un abonnement Netflix. Et en fait, pour un abonnement Netflix, tu peux regarder tout ce que tu veux. Les écrans sont plutôt grands maintenant
chez les
gens.
Mais tout est là.
Et en fait, tu as accès à tout. Et donc, à des bons films, parce que tu choisis toi-même tes films.
Mais tout est là.
Est-ce que le cinéma est devenu un luxe finalement aujourd'hui, Emmanuel Dancourt?
Ah, mais moi, j'y vais plus.
À cause du prix?
Ah bah bien sûr, ah bah j'y vais plus en famille en tout cas. Moi mes enfants, ils ont un peu d'argent de poche, ils l'utilisent comme ils veulent, ils vont au cinéma avec leurs copains copines. Mais quand je les emmène, quand je décide d'emmener les quatre ou au moins les trois garçons avec moi, pour peu qu'on aille au multiplex qui est à côté de Dijon, il y a l'essence, il y a les places, il y a le popcorn dont le prix a complètement explosé. Mais t'es pas obligé, mais enfin c'est un concept d'aller au cinéma, le côté de manger ton popcorn, ça fait partie de l'expérience.
Tu peux plus embêter le voisin, je m'en tire
pour 100 balles, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai plus les moyens de faire ça. Et ça m'a fait marrer parce que moi, je l'aime beaucoup, Kadmerat. Je crois qu'on l'adore tous. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé quand je l'ai entendu sur BFM TV dire ça ce matin, j'ai dit, bah alors, mon coco, quand est-ce que tu baisses ton salaire pour nous aider un peu?
Les producteurs, peut-être,
j'en sais rien. Mais je rejoins complètement Jérôme et toi, Estelle, quand vous dites qu'il y a trop de films, trop de mauvais films. Je comprends pas comment certains sont financés. Des fois, on les voit, on se dit, mais ça a été financé, ça? Ça a été. Et moi, il y a plein de films. Moi, vraiment, quand je vais au cinéma, c'est que j'ai choisi le film. Je pense que Top Gun, fallait vraiment le voir au cinéma, par exemple. Puis il y en a d'autres, je me dis, attends, on va attendre que ça sorte sur Canal ou Netflix. On regardera ça vite fait en loose day, un soir.
C'est pas pareil de regarder un film chez soi.
Il y en a qui méritent pas le grand écran.
Et un film sur grand écran.
Il y en a qui méritent pas le grand écran.
Oui, mais souvent, nos meilleurs souvenirs de cinéma ou de films, c'est des films qu'on a vus, au cinéma. Pas des films qu'on a vus à la télé comme ça.
Ouais, mais tu
en allant chercher la pizza dans le micro-ondes.
Estelle, tu vas te souvenir de Titanic, tu vas te souvenir du Grand Bleu qu'on a pu voir, mais tu ne te souviens pas du navet que tu as vu au cinéma.
Non, je ne vais plus voir de navet au cinéma.
On est d'accord.
Donc consacrons notre argent.
Le problème est là.
Plus ils feront de films bien, plus les gens retrouveront le chemin du cinéma.
De toute façon, les gens, ils attendent une expérience maintenant au cinéma. C'est pour ça qu'on a mis la 3D, les casques.
C'est un coup.
Peut-être que les odeurs reviendront un jour au cinéma, parce que ça avait déjà été testé.
Ce qui coûte cher, c'est d'aller voir un truc nul.
On peut taxer Netflix aussi.
Là, on a l'impression que ça s'est fait avoir.
On peut taxer Netflix, si on veut.
Ça, c'est vrai. On est avec Soheil qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Soheil.
Oui, bonjour.
Alors vous vouliez réagir sur le...
Par rapport à la proposition de Kadmerat, moi je trouve ça illogique. Il y a déjà les cinémas font déjà des efforts avec des abonnements. Moi j'ai un abonnement cinéma, je paye 30 euros par mois. C'est un abonnement duo, je peux aller avec une personne, il y a une personne peu importe qui peut m'accompagner.
Donc
moi j'y vais. Bah oui, gratuitement, je paye déjà un abonnement pour deux places par mois. Ça coûte 30 euros.
D'accord. En fait, alors avec ces 30 euros par mois, vous pouvez y aller 15 fois si vous avez envie.
J'y vais, si je veux passer la journée au cinéma, oui, je passe la journée au cinéma.
D'accord. Et vous pouvez aller voir 20 films dans le mois.
Moi, si je veux aller voir 20 films dans le mois, je vais voir 20 films dans le mois. Si je veux en voir 50, j'en vois 50. Je vais, moi, les mardis ou lundis, je vais avec ma femme aller voir un film qui est sorti. Ensuite, le dimanche après-midi, je prends ma fille et je vais au cinéma et on regarde un film d'animation.
Et vous êtes déçu ou pas du contenu des films que vous voyez, Soheil?
Le réel problème, c'est plutôt c'est Kadmerat qui devrait se poser la question qu'est-ce qui sort au cinéma.
Bah, bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, c'est des films fast-food. Moi, le dernier grand film que j'ai vu, c'est Interstellar. À part ça,
ça date pas d'hier.
Et honnêtement, il y a même que ça soit les productions françaises ou les productions américaines, il y a pas grand chose. Vous parliez de Top Gun, mais Top Gun, il est à part 3 minutes dans le film, il y a rien.
Ouais, mais on passe pas un mauvais moment, vous voyez. Vous êtes avec les mots et tout. Franchement, si on passe un mauvais moment devant Top Gun, bon bah là, je veux dire, on va plus rien voir. Après, il y a eu quand même des films ces dernières années. Enfin, je pense qu'il y a Bac Noir l'année dernière quand même. Les Misérables.
Une fréquence moindre.
On peut pas dire que ça a été un mauvais film. C'est un film français.
Ça a été un film moyen. Après, je comprends comment ça s'appelle. Moi, je pense qu'il devrait faire avec l'arrivée de Netflix, Prime Video et le truc d'Apple. Apple.
Oui, enfin bref, oui.
Ouais, ils sont en train de se battre à qui sort le plus de films. On se retrouve dans un système fast-food. Il faut que le film sorte le plus rapidement possible et qu'il s'en aille
le plus rapidement possible. Merci Soheil, en tout cas, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Dans 10 ans, c'est fini le ciné, Perico Légas?
Non. pas plus que la presse écrite qui est mal barrée.
Bah, ce sera certainement fini dans 10 ans.
Oui, mais il y aura toujours, j'allais dire, une élite ou des gens qui auront besoin d'aller sur voir une vraie toile. Non, pas. Oui,
sauf que les cinémas, les multiplex, ils ne peuvent pas tenir avec les élites.
Non, la profession du cinéma, non, c'est éternel. Je pense que c'est au contraire la chose qui durera le plus longtemps. Ah, alors, il y aura peut-être une redistribution culturelle. Attendez, ça n'est pas la tête. Qu'est-ce que vous proposez d'autre, hein? Alors, il y aura peut-être le cinéma chez soi. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont des énormes écrans. Voilà. Mais le cinéma, la projection avec la bobine derrière, ça continuera toujours parce que ça fait partie de notre civilisation.
Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui faisaient partie de notre civilisation et qui sont en train de
disparaître. C'était mieux avant. C'est ce que je veux dire. C'était
mieux avant. Regardez la bonne bouffe, par exemple.
Avant. Ça fait juste partie de l'exception culturelle française.
Ouais, voilà.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les chaînes généralistes de télé, comme les plateformes, depuis un an, je crois, ont une obligation de financement de cinéma et doivent respecter ce qu'on appelle la chronologie des films, qui les oblige à financer des films qui sont obligés de faire sortir au cinéma pour pouvoir les diffuser après.
Ça, Jérôme, c'est une volonté politique.
Et bien
ça
sûr,
pourrait changer, c'est ça le drame, ça.
C'est à vous de savoir pour qui vous voulez voter.
Non, mais je suis entièrement d'accord, mais donc ça veut dire que c'est fragile.
Pas sûr, pas tous les jours.
Alors, on est avec Cédric qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Cédric.
Bonjour, bonjour à tous.
Cédric, est-ce que vous faites partie de ces gens qui vont encore au cinéma parce qu'ils sont de moins en moins nombreux?
Alors, j'y vais, mais seulement pour les films en 4DX, en fait.
En 4DX? Ah oui.
Oui, tant qu'à payer relativement cher, autant vivre une vraie expérience. Les fauteuils qui bougent, on reçoit de l'eau, on ressent, on a des coups de vent, on a des odeurs.
Ah bon? Voilà. Et ça vous plaît?
Oui, ça forcément, ça me plaît. Pour regarder une comédie française, je préfère rester dans mon canapé.
C'est ça que j'allais vous dire, ça marche pour les blockbusters américains, mais enfin pour les comédies françaises, effectivement, il y a peu de chances d'avoir son siège qui bouge, ou alors c'est pas en accord avec le film.
C'est une grosse dispute.
Oui, ça bougerait vachement moins. Non, mais voilà, après, moi, pour une comédie française, je préfère rester à la maison, mon canapé sera 10 fois plus confortable que les fauteuils au cinéma.
C'est ça. Donc c'est à nous les Français aussi de nous réinventer, de réinventer peut-être notre cinéma. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Vous avez plein de messages, Rémi.
Oui, il y a notamment ce message de Seb qui nous dit vous confondez les salles de cinéma et le cinéma, ça n'a rien à voir, nous dit-il. Et puis il y a beaucoup de messages, c'est très partagé. Il y en a beaucoup qui nous disent bah oui moi 15 euros c'est plus possible, c'est infernal. Puis d'autres qui nous disent oui mais il faut aussi regarder, se renseigner. Il y a des systèmes d'abonnement.
On avait l'un d'entre eux
qui nous disait tout à l'heure, lui, il avait réussi à trouver un abonnement 30 euros pour deux personnes par mois, illimité.
Tu l'as dit, Rémi, tout à l'heure, 15 euros, c'est un prix, c'est comme les 35 heures, c'est un prix
exactement.
De référence. Exactement. Mais en fait, pas grand monde paye
Et il y en a beaucoup aussi qui disent, vous parlez beaucoup des multiplex, il existe, et fort heureusement, encore des salles de cinéma indépendantes en France.
Où tu payes 7 euros la place.
Voilà, exactement. Et 7 euros pour un adulte.
Il n'y en a pas à Dijon.
Et t'as les ciné-goûter le mercredi qui sont géniaux pour les enfants, où tu payes 7 euros avec un goûter, c'est extraordinaire, avec un petit débat derrière.
Donc le problème, c'est peut-être pas tant le prix de la place.
C'est pour ça que moi j'ai changé ma consommation. Je vais plus du tout emmener les gamins dans les multiplex, ils se débrouillent avec l'argent de poche que je leur ai donné, comme ça au moins c'est un budget maîtrisé. Et le cinéma où je vais, moi, c'est le cinéma d'arrêt d'essai de Dijon principalement, que j'ai envie de soutenir, qui passe des films incroyables. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure, quelqu'un nous a dit que c'était Interstellar, le dernier film qu'il avait vu. Vraiment, c'est 2014 et j'arrivais pas à me souvenir de quel dernier film j'avais vu, mais bien sûr, c'était Drive My Car, le fameux film magnifique de Hamaguchi, et c'était en 2021. Et vous voyez, j'y suis pas retournée depuis.
Ah oui.
Ouais. Je ne vais voir que des films qui valent le coup. Ah oui.
Bon, il y a novembre là qui sort bientôt.
On va en parler tout à l'heure.
Riménez, exactement.
Moins mais mieux.
Allez, dans un instant, Anthony Morel, qui nous parlera d'un concept révolutionnaire pour faire baisser sa facture énergétique. Mais avant ça, le sondage. Rémi, faut-il baisser le prix des places de cinéma?
Alors, c'est franc et massif. Hein. C'est oui à 85%.
Ah oui. Alors que nous, on pense que le problème n'est pas forcément là. Écoutez, on n'est pas toujours d'accord avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. Donc, dans un instant, Anthony Morel. Et puis ensuite, on vous parlera à 13h de cette polémique incroyable à Limoges. L'installation d'un fast-food KFC qui suscite la colère des habitants. Est-ce qu'il faut sanctuariser nos centres-villes? On attend vos appels au 32-16. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, on va commencer la semaine avec vous en faisant des économies, ce qui est plutôt une bonne idée, des économies en faisant baisser notre facture énergétique.
Ouais, je vais vous parler de peinture, presque de peinture magique, des peintures qui font baisser la facture ou qui vont la faire baisser dans les mois et les années qui viennent, et notamment une peinture solaire. Une peinture, imaginez, vous badigeonnez les murs de votre maison, et les murs se mettent à produire de l'électricité. Voilà. On avait les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, bah là, c'est de la peinture photovoltaïque. C'est des chercheurs de l'université de Melbourne qui travaillent là-dessus.
Ils ont plusieurs couleurs?
Alors, ils ont plusieurs couleurs. Ça, oui, vous aurez les options. Ça, il n'y a pas de problème.
Et pour la mettre à l'extérieur. Hein.
C'est vrai. Mais, ce qui compte quand même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette peinture. En gros, c'est un composé chimique dont, je vais vous épargner le nom. Je vais vous le donner quand même. Ça s'appelle le sulfate de molybdène synthétique. Voilà. Et en fait, ce composé chimique, eh bien, il a la particularité de c'est un peu comme si vous aviez de servir de semi-conducteur. C'est comme si vous aviez des mini panneaux photovoltaïques à l'intérieur de la peinture. D'accord. Et donc, ça va capter l'énergie du soleil, la transformer en électricité, et avec ça, bah, vous allez pouvoir alimenter une partie des besoins de la maison. Alors, c'est en phase de recherche pour l'instant à l'université de Melbourne. Ça va prendre quelques années. On ne sait pas exactement quel sera le rendement énergétique, donc il faudra évidemment tester tout ça pour de vrai. Mais disons que ce sont des pistes de recherche intéressantes. Hein. Si on va vers des étés où on aura un taux d'ensoleillement toujours plus important, c'est ce qui semble nous pendronner, eh bien évidemment, ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir ces peintures qui pourraient en plus servir non seulement sur les maisons, mais sur les bâtiments d'entreprise, les bureaux, les écoles, les voitures. Alors, ils imaginent même, c'est ça, je trouve ça fou, qu'une voiture électrique, par exemple, vous peignez la carrosserie avec cette peinture et ça va alimenter en partie la batterie.
Le simple fait d'avoir la peinture, ça va résoudre des problèmes.
Encore une fois, il faudra voir le rendement énergétique. On n'en est pas là pour l'instant, mais disons que c'est assez intéressant.
Donc, on roule que par beau temps, mais c'est pas grave.
Oui, c'est ça. Alors,
cet été, on a aussi beaucoup parlé des peintures blanches qui font baisser la température en cas de forte chaleur. Et là aussi, il y a des innovations intéressantes.
Hein. Oui, alors c'est une technique qui vient des États-Unis. Alors, c'est toujours plus chic quand on a le mot anglais, ça s'appelle le cool roofing. Frais et roof le toit. Et là, alors c'est une start-up nantaise qui s'appelle Enercool, qui a connu un gros succès. C'est déjà commercialisé, hein, d'ailleurs, leur technologie. Et donc, c'est une peinture réflective, donc très, très blanche, évidemment, qui promet de faire baisser la température à l'intérieur du bâtiment de 6 degrés en cas de forte chaleur, ce qui est quand même considérable, et de faire baisser les frais de climatisation de 40%. Donc, c'est quand même pas rien. Ah oui. Donc, peinture réflective, c'est en fait à l'intérieur, vous avez des pigments spéciaux, et ces pigments, eh bien, ils vont réfléchir les rayons du soleil à hauteur de 80%. En fait, c'est une techno qui a été utilisée par la NASA pour protéger les propulseurs des fusées des rayons solaires. Et donc, voilà, c'est une technologie qui est de plus en plus populaire, à tel point d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de bâtiments administratifs du côté de Nantes qui commencent aussi à s'en équiper. Donc, voilà, techno française qui permet de faire baisser la facture d'énergie.
Mais moi, je peux mettre ça sur mon toit?
Alors, oui, ça existe déjà. On peut le trouver dans le commerce. Alors, ça coûte autour de. C'est de l'ordre de 20 euros du mètre carré, ce qui est moins cher qu'une isolation classique. Après, pour de la peinture, c'est assez cher. Mais voilà.
À votre avis, pourquoi en Grèce, tous les villages sont en blanc depuis des siècles et des siècles?
Non, mais clairement, on n'a pas. Et alors, ça se fait de plus en plus, y compris aux États-Unis, Los Angeles,
dans les Méditerranées.
Après, c'est Salisson, quoi.
Ah bah après c'est
ben ces villages-là sont toujours propres.
Il y a des peintures auto-nettoyantes. Hein.
C'est vrai.
Et c'est propre parce qu'il repeigne l'hiver.
Mais voilà, en Andalousie, en Grèce, en Espagne, c'est impeccable. Quand c'est blanc, c'est impeccable.
Ça c'est bien pour l'été, mais ça donne quoi l'hiver?
Alors pour l'hiver, on va miser non pas sur les peintures extérieures, mais la peinture intérieure. Et là pour le coup, il y a des trucs assez dingues aussi. Une PME qui est basée du côté de Trégueux dans les Côtes d'Armor, qui a mis au point, un matériau. Alors c'est une peinture qui stocke la chaleur dans la journée et qui la restitue la nuit quand il commence à faire froid. Donc en gros, la journée...
Il ne fait plus jamais froid.
Comment?
Comme il ne fait plus jamais froid.
Oh, bah quand même l'hiver un petit peu.
Sachant que ça existe déjà sur les baies vitrées, ce système-là.
Alors sur les baies vitrées, il y a déjà des choses comme ça, effectivement. Là, c'est la peinture donc, qui va stocker, collecter, emprisonner la chaleur quand la température dépasse un certain nombre de degrés. Et la nuit, quand il commence à faire froid, eh bien, elle va être rediffusée tout dans la maison ou dans l'appartement. Et donc là, l'économie estimée, c'est autour de 10% sur la facture d'électricité, ce qui est quand même pas négligeable.
C'est bien. Ah bah, surtout les prix d'électricité.
Les prix d'électricité en
pas,
ce moment.
C'est pas toxique, tout ça, je pense.
Bah, bien sûr que non. Bah, non, il y a ni
Okay. On le saura dans une quarantaine
d'années. Tu n'es pas obligé de lécher des murs, tu vois.
J'aime bien.
On fait quoi demain, Anthony?
Demain, on va parler de votre haleine. Enfin, pas de la vôtre.
La mienne est très fraîche.
La vôtre est toujours parfaite, évidemment. Mais de notre haleine en général, c'est que l'haleine, c'est comme les empreintes digitales ou le visage, c'est un indice biométrique.
Ils s'en servent à la police.
On peut s'en servir, par exemple.
C'est un marqueur.
On pourra demain s'en servir pour déverrouiller son téléphone en soufflant dessus.
Ah, ça va être sympa.
Exactement, pour assurer, ça existe déjà. Pour détecter certaines maladies aussi. Dans le domaine médical, ça va être incroyable. En soufflant, on pourra détecter tout.
Apportez-moi un petit ballon.
Ah bah évidemment.
Génial. Bon, Anthony Morel, tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle de la polémique du jour, ça se passe à Limoges. L'arrivée d'un fast-food KFC qui suscite la colère des habitants. Est-ce qu'il faut sanctuariser nos centres-villes? Vous nous appelez au 3216. À tout de suite sur RMC.